journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Madame, Monsieur, bonjour et merci de rester fidèle à Radio de la Paix pour ce rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs. Présidentielle du 25 octobre, certains partis politiques tels le FPI, le RHDP et l'ADCI bouclent leur parrainage malgré quelques difficultés et disent se préparer au dépôt des dossiers. Agriculture, plus de 112 000 producteurs ont eu accès à des technologies modernes et plus de 460 structures de transformation sont opérationnelles. C'est le bilan à mi-parcours de la revue annuelle du programme stratégique COSOP 2020-2026. Sur le continent, le groupe AFCM 23 a exécuté plus de 140 civils dans l'est de la République démocratique du Congo en juillet, selon l'ONG Human Rights Watch. En fin d'édition, l'invité de la rédaction, professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste en histoire des relations internationales, interviendra sur le plan d'occupation de Gaza présenté le week-end par le ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il sera avec Nelly Dali. Voilà pour nos grandes lignes. À moins d'une semaine de la fin de l'opération de parrainage citoyen pour la présidentielle d'octobre 2025, précisément le 25 octobre, les candidats à la candidature multiplient les démarches. Le Front populaire ivoirien affirme avoir déjà achevé cette étape et se prépare désormais au dépôt officiel du dossier de leur candidat. Kwaku Kra, vice-président du FPI chargé des questions électorales, nous en parle.
Le Front populaire ivoirien est engagé à la participation de ces élections. Vous rappelez que le FPI, depuis 90, n'a jamais raté ces élections. Même en 2020, on avait déjà bouclé le parrainage. Le Conseil constitutionnel avait confirmé le Front populaire ivoirien avec notre candidat Pascal Afingessa. Depuis le 1er juillet, nous sommes sur l'opération parrainage. Nous avons bouclé le parrainage. Nous avons rassemblé tous les dossiers. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente pour déposer ça en bon et due forme. C'est une élection. Les choses se font de façon stratégique, donc nous attendons.
Mais justement, on avait été annoncé le dépôt de la candidature du candidat Pascal Afingessa il y a quelques semaines ou quelques jours.
Oui, bien sûr, mais dans la même occasion, vous savez que avec notre partenaire ancien, nous avons reçu de leur part une invitation par rapport à deux activités majeures du 9 et du 16 août. Par rapport à cela, il était bon qu'on soit attentif à tous ces événements avant de faire quoi que ce soit.
Et comment ça s'est passé sur le terrain pour le parrainage?
Le parrainage n'a pas été un véritable problème pour nous. Ce qui a été un souci, c'était l'usage du terminal. Par contre, sur le recensement manuel, ça a été vraiment facile. Et nous avons atteint largement même les quotas en un temps record.
Kwaku Kra, vice-président du FPI chargé des questions électorales. Et toujours au sujet du parrainage citoyen, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix annonce lui aussi avoir déjà bouclé l'opération. Une collecte réalisée en une semaine malgré quelques difficultés dans certaines localités. Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé des élections du RHDP.
Dès que le président Alassane Ouattara, notre candidat, a donné sa réponse, les structures ont été mises en mission et les parrainages ont été collectés partout sur le territoire national. Et nous avons constaté un engouement parce qu'à moins d'une semaine, nous avons réussi à boucler notre parrainage. Nous avons commencé le 2 et le 8, l'ensemble des parrainages était déjà bouclé.
Certains de vos collègues des autres partis politiques ont estimé que sur le terrain, il y avait quelques problèmes avec les machines, ce qui les a contraints donc à passer à l'aspect manuel. Est-ce que à votre niveau, vous avez constaté ces quelques difficultés?
Oui, il faut reconnaître que dans certaines zones, quand il n'y a pas le réseau Internet, ça ne passe pas. Donc on a eu ces quelques difficultés, mais en dehors de ça, partout le réseau était bon, ça s'est passé très vite. Pour chaque parrain, en moins d'une minute, on avait fini.
Doumbia Brahima, on apprend ici et là que le 26 août prochain, le candidat du RHDP va déposer son dossier de candidature à la CEI. Est-ce que l'information est vérifiée?
Le moment venu, on vous donnera l'information correcte. Je profite aussi pour féliciter la commission électorale indépendante pour avoir introduit la technologie dedans qui permet d'aller plus vite et qui permet d'éviter les doublons.
Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé des élections du RHDP, était avec Junior Cardin. Junior Cardin qui interrogeait bien avant le vice-président du FPI chargé des questions électorales, Kwaku Kra. Et de son côté également, le mouvement politique ADCI, aujourd'hui et demain pour la Côte d'Ivoire, par la voix de son premier vice-président Israël Guébo, dit avoir bouclé cette opération, relevant les quelques difficultés rencontrées. Nous l'écoutons.
Aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire a décidé d'adhérer à ce parrainage-là, même si on a critiqué les conditions technologiques qui ont été ajoutées, qui peuvent être des freins, mais on a adhéré à cette opération et nous avons été sur le terrain pendant presque un mois. Et à ce jour, ADCI a fini avec l'opération de parrainage. Nous sommes allés au-delà même du nombre de parrainages demandés, c'est-à-dire que, je vous prends un exemple, lorsqu'on nous demandait 2700 pour une région, nous avons pour objectif d'avoir 3000 parrainages en nous disant que éventuellement il peut y avoir des doublons et donc on aurait de la marge pour pouvoir combler. Donc oui, nous sommes allés au-delà des chiffres. Normalement, si on regarde le quota demandé de cette zone que nous avons choisie, il nous fallait trouver 37 159 parrains. Aujourd'hui, nous sommes à 44 100 parrains que nous avons mobilisés et un peu plus d'ailleurs. Donc oui, à ce stade, à aujourd'hui, nous avons bouclé l'opération de parrainage. Nous nous préparons justement pour aller déposer notre candidature à la CEI.
Est-ce que vous avez connu des difficultés sur le terrain?
Oui, beaucoup de difficultés. Déjà, c'était une première opération pour nous. Dans certaines contrées, lorsqu'on sort des villes, la communication sur cette opération n'est pas bien passée. Des populations villageoises ne savaient même pas ce que c'était le parrainage. Les tablettes, les smartphones qui avaient été donnés ne fonctionnaient pas toujours. Ça, c'est les deux défis principaux que nous avons eu du côté de la CEI. Mais du côté des populations elles-mêmes, on s'est rendu compte que il y a beaucoup de populations qui nous demandaient de l'argent en contrepartie du parrainage.
Le vice-président du mouvement politique ADCI aujourd'hui et demain pour la Côte d'Ivoire, Israël Guibo, était en ligne avec Constant Maïli. La restitution de la mission annuelle du programme stratégique du Fonds international de développement agricole, le FIDA, dénommé COSOP, s'est tenue hier mercredi dans la commune du Plateau. L'atelier avait pour objectif de présenter les résultats de la revue annuelle du COSOP 2020-2026, d'identifier les défis restants et les défis restants à relever et partager les bonnes pratiques capitalisées lors de sa mise en œuvre. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Herman Missan, directeur pays du FIDA, a présenté le bilan à mi-parcours de la revue annuelle du COSOP.
Les résultats obtenus cette année montrent des avancées tangibles. Plus de 112 000 producteurs ont eu accès à des intrants et à des technologies modernes. Près de 19 000 ont été formés aux pratiques agricoles résilientes au climat et 466 infrastructures de transformation, de stockage et de commercialisation sont déjà opérationnelles.
Malgré ce succès, les défis persistent, fait savoir Herman Messant, qui affiche tout de même un optimisme.
Des défis subsistent en matière d'infrastructures hydro-agricoles et de partenariat avec le secteur privé. Notre portefeuille s'est considérablement élargi. Il est passé de 370 millions de dollars en 2024 à 550 millions de dollars en 2025, avec de nouveaux projets phares, comme le projet de pôle agro-industriel du Nord-Est et le projet d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Bandama.
Professeur Dateja Kerr, représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, a invité tous les acteurs à s'approprier les résolutions qui seront adoptées lors de l'atelier.
Il s'agit d'un moment d'échange constructif pour partager les acquis et convenir des ajustements nécessaires afin d'atteindre les objectifs fixés d'ici 2026. Je voudrais inviter l'ensemble des parties prenantes à s'approprier la conclusion de cette revue.
Forte du succès des projets en cours, le FIDA prévoit d'augmenter à 5 le nombre d'interventions pour les années à venir et d'y allouer plus de 700 millions de dollars.
Santé en Côte d'Ivoire, une dizaine de journalistes s'est engagée à devenir champion de la lutte contre le paludisme. C'était lors d'un atelier de formation des acteurs des médias tenu hier mercredi à Abidjan. Une activité organisée par l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, le récit d'Ismaël Ango.
Des journalistes sont formés à être des relais efficaces de la prévention contre le paludisme dans le cadre du projet Voix Essentielle, une initiative de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, présidée par Anne-Cécile Conan.
Le paludisme est une maladie qui chaque jour tue des femmes enceintes, des enfants, mais surtout, on a pu constater que le paludisme peut rendre quelqu'un handicapé.
Une formation dispensée par une communicatrice du programme national de lutte contre le paludisme, Kra Sangaré, elle a demandé aux journalistes de sensibiliser le public sur la bonne utilisation des moustiquaires.
L'État de Côte d'Ivoire, en matière de prévention, distribue des moustiquaires chaque 3 ans. Et ces moustiquaires sont utilisés à d'autres fins. Donc nous demandons aux journalistes de relayer encore l'information que les moustiquaires sont utilisés pour dormir en dessous, pour se protéger contre les piqûres de moustiquaires qui donnent le paludisme.
La journaliste du quotidien L'Inter, Marcel Aka, a salué le partenariat entre la presse et la société civile pour soutenir les efforts de l'État dans la lutte contre le paludisme.
Il est important que nous nous engageons aux côtés de cette association qui a eu vraiment la pertinente idée de s'approprier cette lutte en accompagnant l'État à vulgariser les moyens de lutte qui sont disponibles.
10 acteurs de la presse ont signé une charte pour devenir des champions de la promotion de la lutte contre le paludisme.
Et puis à Bingerville, l'hôpital psychiatrique vient d'accueillir un bâtiment d'urgence spécialement conçu pour une prise en charge rapide des patients en situation de crise. Ce don est l'œuvre de l'ONG Soka Gakkai, une organisation fondée sur le bouddhisme et engagée pour la promotion de la dignité humaine. La cérémonie d'inauguration s'est tenue hier mercredi au sein même de l'hôpital. Le point avec Christelle Isso.
L'hôpital psychiatrique est désormais muni d'un bâtiment d'urgence afin de prendre en charge rapidement les patients les plus agités. La directrice de l'établissement, Dr Porke Olga, dit toute sa reconnaissance.
Avant l'arrivée de ce bâtiment, les patients étaient obligés d'attendre avant d'être reçus et malheureusement, il pouvait se produire des cas de violence avec certains patients en situation de crise. Et aujourd'hui, avec cet énième don de la Soka Gakkai, la plupart des problèmes de gestion de crise de l'hôpital psychiatrique viennent d'être réglés.
La Soka Gakkai, initiatrice de ce don, est une association religieuse qui œuvre pour la création de valeurs. Son directeur général section Côte d'Ivoire, V. Pierre, présente les caractéristiques de ce nouveau bâtiment.
C'est un bâtiment de 36 mètres carrés, d'une hauteur de 2,50 mètres, équipé d'un bureau de médecin, salle d'accueil, salle de patients et deux salles d'eau.
Les clés du bâtiment ont été officiellement remises par le représentant du ministre de la Santé, Kouyaté Zoumana, a félicité cette initiative.
Je vais remettre les clés à Madame la directrice. Je souhaite que vous en fassiez bon usage.
Un des éléments importants que le ministre de la Santé essaie de motiver, c'est au-delà des actions du gouvernement, avoir des partenaires techniques et financiers pour nous accompagner. C'est en cela que je félicite Soka Gakkai pour avoir compris ce message dont je voudrais encourager chacun d'entre vous. Afin de cet hôpital, un hôpital normal, je dirais. C'est comme si vous étiez au CHU de Trècheville, au CHU d'Angrée. C'est le même principe, à part que les patients sont différents.
L'hôpital psychiatrique de Bingerville accueille près de 20 000 patients par an.
Toujours au plan sanitaire, l'ONG Save Nyangezan, dans le but de promouvoir l'hygiène dans les structures de santé, a organisé sa première conférence sur l'importance de l'hygiène en milieu de soins. C'était mardi dernier à l'amphithéâtre de l'Institut national de l'hygiène publique, l'INHP de Trècheville, à l'occasion de son 10e anniversaire. La cérémonie a été soutenue par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, suivant le compte-rendu à cet effet de Nelly Dali.
Dans sa communication, le conférencier a mis l'accent sur les produits d'hygiène utilisés en milieu de soins. Yapo Brice, ingénieur des techniques sanitaires à l'INHP de Trècheville.
Les produits d'hygiène et de nettoyage sont utilisés soit pour nettoyer, décoller les salissures ou inhiber la croissance des micro-organismes ou les tuer. Ce sont en outre les détergents, les antiseptiques et les désinfectants.
Mais avant, le directeur général de l'INHP, professeur Ekra Kwadio Daniel, a relevé l'importance de l'hygiène hospitalière.
Quand on sort d'un hôpital où il y a l'hygiène, en général, on part sans autre maladie. Parce que quand il n'y a pas d'hygiène à l'hôpital, on vient avec une maladie et on repart avec une autre maladie. Vous avez choisi pour l'hôpital la bonne part.
Le directeur coordonnateur adjoint du programme national de nutrition, Dr Kwame Désiré, a ensuite encouragé l'ONG Save Nyangezan à poursuivre son œuvre.
L'évaluation de vos activités, elle est particulière et qualitative. Vous constituez donc un modèle d'ONG parmi les 400 que le ministère a, qui est capable de transformer des problèmes en opportunités à accomplir.
La présidente de l'ONG Save Nyangezan, Agou Frédéric Daniel, a fait les plaidoyers suivants.
Nous sollicitons le soutien des personnes de bonne volonté pour nous accompagner dans nos actions sur toute l'étendue du territoire ivoirien, surtout en moyen de déplacement. À l'État de Côte d'Ivoire, nous faisons un plaidoyer pour institutionnaliser une journée nationale de l'hygiène en milieu de soins.
Une quinzaine de centres de santé a reçu des kits de draps de lit et de produits d'hygiène.
Dans l'actualité sur le continent, l'ONG Human Rights Watch dénonce l'exécution de plus de 140 civils par le groupe AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo au cours du mois de juillet. L'ONG a publié hier mercredi un rapport sur le sujet. Ces massacres ont lieu dans plus de 14 villages et petites communautés agricoles situées près du parc national de Virunga dans le territoire de Rutshuru. L'ONG Human Rights Watch qualifie ces massacres comme les pires atrocités commises par le groupe armé depuis sa résurgence fin 2021. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Il s'agit aujourd'hui du professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste en histoire des relations internationales. Dans cet entretien conduit par Nelly Dali, il fait l'analyse du plan d'occupation de Gaza, présenté le week-end par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un plan qui, selon des observateurs, pourrait redessiner les équilibres au Proche-Orient.
Bonjour professeur Bamba Abdoulaye.
Bonjour madame.
Que prévoit concrètement le plan d'occupation de Gaza présenté par Benjamin Netanyahou?
L'objectif est d'assurer la sécurité d'Israël en désarmant totalement le Hamas.
Dans ce plan, il dit le Hamas doit être désarmé, tous les otages doivent être libérés, Gaza doit être démilitarisé, Israël doit avoir le contrôle total de la sécurité et une administration civile pacifique non israélienne qui doit être mise en place. Est-ce qu'on peut parler de la fin de l'autorité palestinienne avec ce plan?
On va à petits pas. Mais en réalité, l'objectif principal, c'est qu'Israël aujourd'hui veut occuper la bande de Gaza. Et Israël serait très heureux de voir tous les pays palestiniens aujourd'hui quitter cette zone.
Quelles conséquences ce projet pourrait-il avoir sur la gouvernance à Gaza et en Cisjordanie?
Les conséquences sont à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, le Hamas, pour être honnête, n'est plus une menace pour Israël. Le Hamas a été quasiment réduit. Le Hamas n'est pas une armée normalement constituée. C'est un groupe qui sociologiquement a la capacité de se disperser dans la population. Donc depuis bientôt 22 mois, ce combat contre le Hamas a permis d'affaiblir au maximum le Hamas. Mais cette politique de Netanyahou va peut-être être aujourd'hui une menace pour Israël lui-même, parce que ça va continuer d'envenimer la haine que les uns et les autres ont pour Israël. Et la question sécuritaire va toujours être au rendez-vous pour Israël. Et enfin, il y a la dimension humanitaire, qui est aujourd'hui vraiment un scandale international. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Et les quelques rapports qu'on a, c'est vraiment pas digne du 21e siècle.
Quelle pourrait être la réaction des grandes puissances comme les États-Unis, l'Union européenne et la Russie?
Toutes les réactions internationales sont les bienvenues, mais la seule réaction internationale qui peut changer véritablement la situation, c'est celle des États-Unis. Or, la posture américaine n'est pas dans une dynamique d'amener Israël à changer de posture. Bien au contraire, il y a parfois un silence coupable qui tend à comprendre que les États-Unis ne feront rien pour l'instant, en tout cas, pour empêcher Israël d'atteindre ses objectifs à ce niveau. En tout cas, ça crée un tollé général, même au sein de l'État israélien. L'armée elle-même est divisée. Certains généraux ne voient plus d'un bon œil le fait de la poussée de cette guerre. La population, elle, est divisée parce qu'elle estime que cette manière de faire met en péril la vie des otages. La communauté internationale, aujourd'hui, avec certaines grandes puissances, la France, le Royaume-Uni, le monde arabe qui est en train de se lever pour parler d'une seule voix. Mais il faut que les États-Unis lèvent la main, que les États-Unis se lèvent et s'associent aux autres pays pour que Netanyahou comprenne qu'en réalité, l'intérêt d'Israël, c'est de laisser la zone de Gaza aux Palestiniens et peut-être chercher à créer, comme l'ont préconisé beaucoup d'États, deux États, un État palestinien et un État israélien qui existe déjà, et définir les contours de la collaboration, de la cohabitation entre les deux entités, que la paix définitive puisse revenir dans cette zone.
Selon vous, est-ce que ce plan d'occupation peut réellement stabiliser la situation à Gaza?
Non, pas du tout. Ça va d'abord envenimer la situation. Ça fait 22 mois que ça dure et c'est pas fini. Donc la solution militaire aujourd'hui n'est plus la solution parce que le Hamas est affaibli. Pour que le Hamas renaisse de ses cendres, il faut énormément d'années. Sur ce point, Israël a une très grande longueur d'avance sur le Hamas. Ça devait être pour Israël l'opportunité donc de poser les bases de cette future cohabitation. Peut-être qu'il y a des conditions pour l'instant assez contraignantes, mais cesser la guerre et envisager dans cette cohabitation pacifique. Mais apparemment, c'est pas cette voie que Netanyahou a choisie.
Aujourd'hui, est-ce qu'il existe une alternative pour parvenir à une paix durable entre Israël et Palestine?
Si vous partez du premier plan de partage, qui était déjà une première solution qui avait été proposée, à aujourd'hui, le plan de partage qui est appelé pratiquement la question des deux États, État palestinien et État israélien, cette solution a aujourd'hui que une grande majorité de la communauté internationale des pays membres de l'ONU reconnaît aujourd'hui comme solution. Mais cette solution n'est pas vue d'un bon œil du côté israélien. pense que la solution, donc, c'est la solution militaire. Et donc, c'est cette voie seule que Netanyahou connaît, malgré les cris de cœur, malgré les interpellations de la communauté internationale, de la Ligue arabe, de ses voisins, pour une solution pacifique.
Alors, quel rôle la communauté internationale devrait-elle jouer pour éviter une aggravation du conflit?
D'abord, il y a un rôle de pression, un rôle de désolidarisation d'Israël, surtout pour les pays occidentaux qui fournissent armes, munitions, moyens financiers, moyens économiques. Certains ont commencé à faire entendre leur voix, mais il faut aller au-delà de donc, la voix, il faut être très concret sur ce terrain. Donc, la communauté internationale peut jouer un rôle, parler d'une seule voix, y compris les États-Unis, parce que l'ONU seule ne pourra pas. Et pour moi, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est la position américaine sur cette question. Si les Américains arrivaient à se rallier à la position des autres pays de la communauté internationale, je pense qu'on aurait fait un bond considérable sur le chemin de la paix entre ces deux entités.
Merci, professeur Bamba Abdoulaye.
Merci beaucoup, madame.
C'était à l'instant le professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste en histoire des relations internationales. Invité de la rédaction aujourd'hui, il répondait aux questions de Nelly Dali. 12h passées de 21 minutes, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Présidentielle du 25 octobre, certains partis politiques tels le FPI, le RHDP et la DCI bouclent leur parrainage malgré quelques difficultés et disent se préparer au dépôt des dossiers. Agriculture, plus de 112 000 producteurs ont eu accès à des technologies modernes et plus de 460 structures de transformation sont opérationnelles. C'est le bilan à mi-parcours de la revue annuelle du programme stratégique COSOP 2020-2026. Et puis sur le continent, le groupe AFCM-23 a exécuté plus de 140 civils dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, durant le mois de juillet, selon un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 12h. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Radio de la Paix, c'est à 15h. Pour l'heure, retrouvez la revue de la presse ivoirienne avec Mardoché Kouassi.
Bonjour à tous.